pourquoi avoir choisi cette année le Canada ? Parce que vous n'aviez pas encore été.
Alors ma réponse va être un peu triviale, c'est effectivement, on hésitait et on s'est dit, ben, on n'a pas été au Canada. Puis moi ça m'intéressait, le cinéma canadien, j'ai découvert plein de choses en programmant ce festival, donc je suis ravi.
C'est l'heure de l'émission spéciale en direct et en public du Cinéville de Laval pour l'inauguration des reflets du cinéma canadien.
Au cœur du Cinéville de Laval, là où les histoires d'ici et d'ailleurs prennent vie sur grand écran, nous voici réunis pour célébrer la magie du 7e art lors de l'inauguration de la 27e édition du festival Les Reflets du Cinéma Canadien. Je suis Margot et à mes côtés Fabrice, bonjour à toi.
Bonjour Margot.
Nous serons ensemble pour ce voyage d'une heure sur les ondes de l'autre radio parce qu'aujourd'hui, nos cœurs s'ouvrent aux récits venus du Canada où chaque image raconte une histoire, chaque cadre capture une émotion et en prend soin à travers les points de vue de réalisatrices, de réalisateurs et de toute l'équipe qui crée le film avec eux. Pour bien en parler, pour mieux en parler, nous sommes accompagnés de nos invités, Wilfried Jude, directeur artistique et programmateur de l'association Atmosphère 53, et Anaïs Barbeau-Lavalette, invitée d'honneur de cette 27e édition, mais surtout réalisatrice notamment du film Chien Blanc, programmé en avant-première au festival. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à toutes et à tous, auditeurs et spectateurs, dans cette émission spéciale Reflets du cinéma canadien. D'ailleurs, Wilfried et Anaïs, je vous propose que l'on commence maintenant. On parle du cinéma canadien, mais il n'y a pas qu'un seul cinéma canadien et c'est ce que nous prouve cette programmation. Peut-être, Anaïs, que vous pouvez nous en dire quelques mots. Qu'est-ce que c'est le cinéma canadien ? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul ?
C'est une grande question. Ben non, évidemment qu'il n'y a pas qu'un seul cinéma canadien. D'abord, moi, je me sens évidemment plus à même de parler du cinéma québécois. C'est plus qu'un territoire. C'est vraiment... C'est un petit milieu, mais très actif, très vivant. Les cinéastes du Québec se connaissent. Puis la langue nous distingue, mais la façon de nous réfléchir aussi, le désir de se raconter, c'est assez neuf en fait que les Québécois sortent du territoire pour se raconter. Par exemple, bon, Chien Blanc, ça prend pas racine au Québec. On parle d'incendie aussi que vous avez reçu ici aussi. Bref, il y a plusieurs films maintenant qui s'inscrivent ailleurs que sur le territoire québécois. On a longtemps été porté à réfléchir les questions linguistiques en fait au Québec, puis donc évidemment à tout ce que ça voulait dire comme en termes de combat politique, comment on se distinguait nous, petit Québec, entre les États-Unis et le Canada où c'est l'anglais qui prime. Donc ça a été beaucoup de cinéma politique jusque dans les années 70-80 pour après finalement parvenir à un autre type de cinéma, un autre type de réflexion, un autre type de débat.
Un des derniers gros succès qu'il y a eu en France du cinéma canadien, d'ailleurs programmé, c'est Starbucks. Moi, je me rappelle que Starbucks, quand je l'ai vu, il était sous-titré à la télé, alors que c'était tout à fait, c'était assez compréhensible. C'est un film qui a eu le droit à un remake français qui était parfaitement inutile, en fait, qui n'était pas forcément un mauvais film. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est de la comédie et... Je ne sais plus comment amener ça, mais il y a quand même. C'est dommage que. Moi, j'ai trouvé assez dommage que ce soit doublé, en fait, parce que.
On est capable de se faire l'oreille quand même à
ouais,
cet accent.
C'est sûr qu'au début, ça peut perturber un peu, mais au bout de quelques
minutes. Mais c'est savoureux quand on fait l'effort.
Exactement.
Il y a le film de Monia Chokri aussi, qui Simple comme Sylvain, qui a pris l'affiche récemment, qui a gagné meilleur film étranger au César. Donc, je pense pas qu'il soit sous-titré en salle. L'oreille française est capable de s'habituer à cet accent.
S'habitue, ouais, c'est ça.
Ouais.
Et toi, Wilfried, qu'est-ce que tu penses, du coup, toi qui as créé cette programmation, qu'est-ce que tu as vu de ce cinéma canadien ?
Ben, en fait, c'est ce que je disais avant l'émission. Il y avait des lignes de force lorsqu'on a fait les reflets du cinéma brésilien, des lignes de force comme un cinéma politique. Sur le cinéma canadien, j'ai découvert un cinéma très éclectique, très... je ne sais pas, il y a plein de choses. Un cinéma pas sans rire, pas mal, sur certains films, notamment Vampire humaniste, Cherche suicidaire consentant. Un cinéma généreux. Un cinéma très éclectique dans sa manière d'envisager le monde. Et puis, effectivement, pour, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai quand même mis de l'anglo-saxon, même si la proportion est à peu près celle qu'il y a sur le pays. C'est-à-dire que j'ai 35% de films anglo-saxons et 65% de films québécois dans ma sélection. Et dans les films québécois, on essayait aussi d'avoir des films de patrimoine tels que Les Ordres de Brault.
C'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie, Les Ordres. C'est de façon à l'international, il reste dans mes coups de cœur à vie. C'est vraiment du grand cinéma.
Oui, c'est vraiment du grand cinéma. On est très content de l'avoir. Et puis aussi des films contemporains, c'est-à-dire qu'essayer de faire un état des lieux du cinéma contemporain canadien et québécois, évidemment. Et puis, on est très, très content d'avoir, évidemment, Chien blanc en avant-première, parce qu'il ne sort qu'en mai en France. Donc, on est très content de le diffuser un peu partout sur le département.
Un Chien blanc qui est déjà sorti au Canada il y a quelques temps.
Oui, exact. Ça fait 2 ans qu'il a pris l'affiche. Donc, je suis vraiment très contente qu'il atterrisse en territoire français parce qu'évidemment, il est tissé, serré. C'est l'adaptation de l'œuvre éponyme de Romain Gary, donc Chien blanc, qui a été écrit dans les années 70. C'est Denis Ménochet qui incarne oui. Romain Gary. C'est à l'époque donc où Romain Gary était consul de France à Los Angeles, Maria Jean Seberg. Puis bon, la prémisse, c'est une histoire vraie, hein, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc la prémisse, c'est Jean et Romain trouvent un chien abandonné qui décide d'apprivoiser avant de se rendre compte que le chien a été dressé pour attaquer des personnes noires. Et en fait, Romain, du haut de son humanisme même qu'on connaît tous, se met pour défi de guérir, entre guillemets, le chien, donc de le soigner. Il confie à un dresseur afrodescendant dans un chenil. Donc, bon, je ne vous révèle pas ce qui se passe à la fin, si vous n'avez pas lu le livre, mais c'est ça. Moi, c'était mon rêve de faire... Chien blanc, je l'ai lu, j'étais ado, puis j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup d'admiration d'abord pour l'intelligence de Romain Gary, ça c'est indéniable, mais il y avait, je pense, un film extraordinaire à faire. J'ai toujours pensé qu'il y avait un film à faire, mais je ne me suis jamais donné la permission de penser qu'un jour ce serait peut-être moi qui le ferais. Puis voilà, c'est ça. Puis il y a plein de corrélations avec mon histoire personnelle. Ce qui est assez bouleversant, c'est que pour faire Chien blanc, j'ai dû rencontrer avec bonheur Diego Gary, donc le fils de Jean Seberg et de Romain Gary, parce que c'est lui l'ayant droit. Donc, il habite à Barcelone, il n'y a pas de téléphone, pas de courriel. C'était quand même un beau grand défi d'aller le rencontrer. Ce que j'ai fait, en fait, je suis allée à Barcelone, j'ai frappé à sa porte, Diego m'a ouvert, puis on a passé une journée ensemble, en fait, puis... Au fil de la conversation, on s'est rendu compte que cet homme, d'ailleurs, qui est le portrait craché de son père, en fait, sa mère, Jean Seberg, est allée se battre auprès des Black Panthers à peu près au même moment où ma grand-mère se battait aussi dans les mêmes zones. Donc, on ne sait pas là, s'ils ont pris le thé ensemble, mais tout nous indique que c'est très probable. Il y avait très peu de femmes blanches à l'époque qui se battaient avec ces groupes militants-là. Donc, qu'elles se soient côtoyées. Il y avait quelque chose d'un peu magique là, dans ce grand, grand hasard-là. Bref, c'était une très, très, très belle rencontre, très profonde. Puis, suite à cet après-midi-là, Diego m'a dit « Vas-y, carte blanche pour faire Chien blanc ». Puis, on s'est plongé avec Valérie Beaugrand-Champagne dans l'écriture du scénario là, de l'adaptation.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est donc vous l'avez sorti au Canada en 2022, il sort en 2024 en France. Est-ce que ce temps, ce délai entre nos deux pays, est-ce que c'est quelque chose d'habituel? Pas forcément. Est-ce que le cinéma canadien ou québécois s'exporte moins facilement en France ou à l'international? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Je pense que c'est difficile pour tous les films étrangers de se faire un chemin au milieu de toutes les sorties nationales, évidemment. Je pense que c'est un... Pour vrai, c'est pas mon métier, la distribution, mais je sais que c'est un film politique moi, j'adore ça, mais il dérange. Donc, j'aime ça déranger. Je pense qu'on fait aussi des films pour ça. Il vient bouleverser certains... Fait que je pense que ça peut faire peur à certains distributeurs. C'est pas... Mais moi, je pense que le cinéma existe pour ça aussi.
Justement, le cinéma, il est souvent marqué, même peut-être toujours, plus ou moins par les enjeux, l'histoire de son pays. On le voit notamment avec les relations complexes entre autochtones et non-autochtones dans cette programmation. C'est un sujet qui revient souvent, Wilfried, dans les films que vous avez pu voir en faisant cette sélection.
Mais disons qu'on n'a pas pu faire l'impasse sur ces problématiques-là dans notre sélection. Effectivement, on a plusieurs films qui parlent des problématiques autochtones et des rapports entre les autochtones et les blancs. Et donc, on a Cuecipan, on a Night Raiders, qui est un film de science-fiction qui est passé hier au Cinéville, mais qui parle aussi des peuples autochtones. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Je m'appelle Humain sur une poétesse autochtone. Et puis on a surtout donné une carte blanche à Wapikoni Mobile, qui est une expérience de film fait par les autochtones avec un camion cinéma. Enfin, ils font aussi de la musique.
Est-ce que Wilfried, tu savais que c'était ma mère qui avait démarré le Wapikoni Mobile ?
Oui.
Je trouve ça extraordinaire qu'on se retrouve ici, parce que ça va faire plusieurs dizaines d'années que le projet est parti. Moi, j'ai participé pendant 6 ans au Wapikoni Mobile, puis je trouve que c'est une expérience bouleversante parce qu'elle est vraiment porteuse de changements. Il y a des vrais cinéastes qui sont nés grâce au Wapikoni Mobile, des vraies voix, des vrais regards hyper singuliers. Puis c'est ça qu'on... Excuse-moi, je t'ai vraiment coupé la parole. Je suis désolée, mais c'est pas ça parce que j'adore parler du Wapi parce que faut essayer d'imaginer le... Faut essayer d'imaginer où est-ce qu'on débarque, OK? Moi, j'ai été 6 ans dans la communauté de Kitsake, qui est une communauté algonquine. On est au milieu de l'Abitibi. C'est de la forêt à perte de vue, OK? Il y a une route qui traverse ce territoire-là. Et à un moment donné, il y a un petit chemin de terre qui part dans le bois. On roule. On arrive à Kitsake. À Kitsake, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, OK? On est des fois l'hiver à moins 40 degrés, on s'entend, là. Donc, on imagine des familles nombreuses. Il faut aller dans le bois pour aller aux toilettes. Il n'y a pas d'eau courante, sauf dans le bloc sanitaire qui est au milieu du village, où tout le village doit aller laver les petits. Bref, c'est le tiers-monde, mais à moins 40 degrés. Et là, la roulotte débarque au milieu de cette forêt-là, au milieu de la communauté, puis ça prend du temps parce que tu restes un blanc qui débarque, ça prend du temps. Au début, tu sais, les aînés, ils te regardent de loin, puis t'es pas bienvenu avec raison, je veux dire. Ils ont des siècles de blessures à cicatriser. Ça va prendre du temps avant qu'on soit les bienvenus. Mais dans la roulotte, il y a des caméras, des micros, une table de montage et 2 cinéastes formateurs. Et là, les premiers à papillonner autour de la roulotte, c'est les enfants, c'est les moins gênés. Puis en plus, on a des trucs à manger dans la roulotte, donc ça va plus vite. Puis tranquillement, les ados arrivent, puis on leur prête la caméra. Et là, ce qui est magnifique, c'est que nous, évidemment, les cinéastes formateurs, on aurait 1000 films à faire. On les voit, les histoires, puis on aurait envie de les faire, mais il faut se retenir, c'est à eux de raconter leur propre histoire. Puis ce qui est magnifique, c'est que ça se passe. On leur donne la caméra, on leur donne le micro. Puis là, le morceau le plus difficile, c'est là où il faut les convaincre que leur histoire nous intéresse et que oui, ils ont quelque chose à dire parce qu'ils se sont tellement fait dire « ta langue n'est pas la bonne ». Tu fonctionnes pas de la bonne façon. Je veux dire, ils ont tellement désappris à être célébrés dans leur singularité puis dans leur façon d'imaginer. Donc, c'est refaire jaillir cette confiance-là. Puis quand ça arrive, leurs films sont éclatants. Puis leurs films ont fait le tour du monde. Ils sont allés dans plein de festivals. Donc, imaginez, encore là, on repart de la communauté au milieu du bois. Ils sont allés à Cannes, à Toronto, avec leurs films. Puis là, bon, ils sont ici avec certains de leurs films. Puis moi, je trouve que c'est vraiment magnifique parce que c'est l'émergence de regards qui auraient pu être perdus pour toujours, tu sais, qui se passe grâce à cette roulotte-là.
Là, c'est une manière aussi de questionner le rôle du cinéma, justement, pour retrouver sa légitimité. C'est intéressant.
Oui, vraiment. Puis ça se passe, c'est ça.
Mais voilà.
Donc on parlait voilà l'histoire d'un pays, mais c'est aussi l'espace des représentations. On remarque aussi de très beaux films mettant en avant notamment la culture queer ou même le féminisme dans cette programmation.
Oui. Bah ça fait partie aussi de notre, j'allais dire, de l'ADN du festival. Moi, depuis que je travaille à Atmosphère, on essaye de travailler autour de ces problématiques-là. Oui. Il y a un film, il y a le film de Bruce Labrusse, Saint-Narcisse, oui. Notamment. Il y avait le film d'ouverture qui aborde les questions queer aussi, avec les deux personnages qui sont les tantes de Rosie. Oui. Voilà, enfin, les, les autres tentes, parce qu'il y a la tente vernaculaire, voilà. Et puis oui, on essaye d'être en phase avec l'époque, qui a besoin de dire certaines choses. Donc ça nous semble très important de problématiser beaucoup de choses. Et puis le cinéma est un formidable vecteur pour le faire en général.
Ça veut dire aussi que la culture le permet, parce que mine de rien, si on regarde tous les cinémas qui existent au monde, il y a des endroits où ce type de cinéma n'existe pas encore.
Ah oui, si on parle du cinéma queer, il n'y en a pas partout.
C'est clair.
Alors, il y en a un peu moins que l'an dernier. L'an dernier, il y en avait un peu plus. Parce que les problématiques brésiliennes aussi étaient très, très ancrées, très ancrées dans les problématiques queer. Mais on essaye toujours, comme disait Anaïs tout à l'heure, on essaye toujours de montrer des films qui... Alors, cette année, je me suis un peu plus... cet éclectisme du cinéma fait que Rosie, par exemple, c'est ce qu'on appelle un feel-good movie, même s'il aborde certaines problématiques, notamment les enfants autochtones et les problématiques queer du Montréal des années 80. On essaie quand même de montrer des films qui ont un aspect politique, qui proposent un point de vue sur le monde, en tout cas. Ça, moi, ça me semble évident qu'on travaille avec des films qui ont besoin de proposer, enfin, qui nous proposent un point de vue sur le monde qui soit, qui nous permette d'avancer et de réfléchir.
Alors Wilfried, tu parles donc du film Rosie comme un feel-good movie. C'est un film qui donne vraiment de l'élan et justement, je propose une petite pause musicale et on écoute donc le titre La soirée de Linus Sandberg et Fleur Offwood, un titre qui fait partie de la BO du film. Écoutez.
Je mis un temps fou.
Vous écoutez l'autre radio, et plus précisément l'émission spéciale en direct et en public du Cinéville de Laval pour l'inauguration des Reflets du cinéma canadien.
Et oui, nous sommes de retour sur l'autre radio en plein cœur des Reflets du cinéma canadien, un festival qui a commencé, je vous le rappelle, le 15 mars et qui propose une cinquantaine de films dans l'ensemble du département jusqu'au 24 mars. Nous sommes toujours en très bonne compagnie puisque nous sommes avec Wilfried Jude, directeur artistique et programmateur du festival, ainsi qu'Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice mais aussi réalisatrice, notamment du film Chien Blanc en avant-première sur ce festival. Donc nous avons parlé du festival canadien, de son identité, de ses sujets et thématiques fortes. Et maintenant, on vous propose de se pencher sur le festival en lui-même. Wilfried, la première édition de ce festival était en 1997. Nous en sommes à la 27e édition du festival, donc Les Reflets du cinéma. Cette année, Les Reflets se penchent sur le cinéma canadien. Et alors, Les Reflets, ça représente 11 cinémas sur le département qui projettent des films de la programmation. C'est aussi ça la richesse de ce festival, une diversité de salles réparties sur l'ensemble du territoire avec des identités différentes. Le festival va vraiment en fait à la rencontre des Mayennais.
Oui, alors on travaille vraiment, effectivement, on essaye de travailler avec, enfin on, non, c'est pas on essaye, c'est on travaille avec les 11 cinémas du département. En fait, il y a deux villes qui passent tous les films de la sélection. Donc c'est Laval avec le Cinéville et l'Avant-Scène, et c'est Mayenne avec le Vox. Donc là, les 37 films de la sélection passent dans tout, enfin les 35 films de la sélection passent dans tout, dans ces deux villes. Et ensuite, les autres cinémas font leur marché un peu. Et moins de films, mais ils participent activement. À la singularité de ce festival dans son entier, notamment le Bourgneuf-la-Forêt et puis Évron, des villes dans lesquelles on va présenter Chien Blanc tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un vrai festival qui veut mailler le territoire. Oui. On est très présent. Enfin, on essaye d'être présent pour que ce soit, que ça rayonne sur toute la Mayenne.
Et si on parle donc d'aller vers les Mayennais, les Reflets vont aussi particulièrement dans les écoles, les collèges, les lycées. Il y a tout un travail presque de l'ombre autour du festival, autour du cinéma, on va y revenir. Ta rencontre avec le cinéma s'est faite assez jeune, je crois, dans la construction, dans le regard que tu portes sur le monde. Est-ce que le cinéma a eu un rôle important ?
Ah oui, le cinéma c'est politique, évidemment. J'ai grandi avec le cinéma. J'ai commencé avec le cinéma très très populaire français. Mais effectivement, oui, à un moment donné, je me suis rendu compte que le cinéma c'était un point de vue. C'était avant tout le point de vue d'un ou d'une cinéaste, et que c'était essentiel que le cinéma puisse être vecteur de choses politiques et de choses. De révolutionnaire parfois. Il me semble important que le cinéma joue encore ce rôle-là aujourd'hui. Oui.
Et vous, Anaïs, vous ressentez aussi cette importance d'aller vers les jeunes avec le cinéma, parce que j'ai le sentiment qu'on n'est jamais vraiment justement passif en tant que spectateur devant un film. On est automatiquement impliqué. Aller au cinéma, est-ce que c'est aussi comme ça qu'on développe notre esprit critique et qu'on se penche sur des histoires qui ne sont pas seulement la nôtre ?
Ben oui, bien sûr. En fait, je pense que peu importe quel film on va voir, je pense que ça nécessite une certaine ouverture. Puis déjà, travailler cette ouverture-là, ça ouvre aux autres, en dehors même de la salle, puis ça, c'est précieux, je pense. Moi, je sais que j'ai toujours souhaité faire des films pour participer à ma façon au monde, que la caméra est mon outil, la caméra et les mots, parce que j'écris aussi, mais ça a toujours été... l'outil que j'avais à ma portée de main pour participer au monde. Après, il y a plein de façons de participer au monde, mais l'idée étant des fois juste de débloquer des zones figées à l'intérieur du spectateur. T'sais, c'est pas nécessairement de t'sais, je crois pas au cinéma qui passe des messages, okay? Mais des fois, on a ces espèces d'espaces qui existent déjà en nous, c'est juste que la porte est fermée, donc on le savait même pas qu'ils étaient là. Puis je pense que les films, par l'invitation à certaines émotions, invite à l'ouverture de ces portes-là qui sont de toute façon en nous, puis qu'à partir de ce moment-là où elles sont ouvertes, on réfléchit mieux, on réfléchit plus loin, on se dépasse, en fait. Quand ça fait ça, c'est formidable. En fait, moi, quand un film me fait ça, je suis reconnaissante pour la vie, là.
Merci Anaïs. Et donc, on disait, Atmosphère 53 fait tout un travail en amont du festival. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Wilfried, des différents temps qui existent autour du festival ?
Alors, on fait beaucoup d'actions culturelles autour du festival. Il y a des séances de cinéma pour les scolaires, donc ça va de la petite section jusqu'à la terminale. Donc, beaucoup d'élèves en salle de cinéma pour aller voir des films canadiens, évidemment, ou coproduits. Et puis on fait aussi de l'action culturelle, donc notamment Anaïs qui va faire des signatures de ses livres, qui va rencontrer le public, qui va même aller à la maison d'arrêt pour faire un atelier avec le public. Et puis il y a aussi des choses plus, j'allais dire, plus légères comme des ateliers cuisine ou
à
Château-Gontier.
Ça c'est pas moi par exemple.
Des mac and cheese.
je me risquerai pas.
Donc voilà. Et puis, y a aussi des spectacles. Hier, on a fait un ciné plus concert au Vox de Mayenne, où on a passé du cinéma expérimental de Michael Snow. Et puis, il y avait un musicien qui jouait entre les films. Pas sur les films, parce que les ayants droit n'ont pas voulu qu'on joue sur les films. Donc, on a joué entre les films. Voilà, on a passé 3 courts-métrages de Michael Snow. On aurait pu passer son chef-d'œuvre qui fait 3h30. Mais comme c'est un cinéma très radical, c'est un film qui s'appelle La Région Centrale. Mais on a passé des films plus courts pour un peu plonger les gens dans le cinéma d'animation. Le cinéma expérimental. Mais voilà, il y a plusieurs activités. Il y a des spectacles de théâtre, il y a eu des lectures. Il y a eu un apéro-lecture au Bourgneuf-la-Forêt avant les festivals. Donc il y a aussi beaucoup d'actions culturelles autour du festival, effectivement. Et vous pouvez retrouver les ouvrages de Anaïs dans toutes les librairies du département.
Anaïs, justement, vous êtes l'invitée d'honneur de ce festival. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette rencontre avec le public ? Parce que le festival, c'est le moment idéal, j'ai envie de dire, pour aller à la rencontre de son public au moment de la sortie de votre film. C'est pas votre premier festival, Chien Blanc, qui sortira. Pour vous, vous avez tout un temps, donc réaliser un film, c'est en fait tout un temps d'écriture, un temps de tournage, un temps de montage, un temps d'étalonnage, etc. Tout un temps où vous remettez en question en permanence ce que vous êtes en train de faire. Au moment où vous livrez ce film-là à un public, est-ce que vous êtes étonné des fois des retours que vous pouvez avoir ? Est-ce que c'est un nouveau moment d'étonnement pour vous dans l'étape de création et de partage ?
Ben, c'est le moment où on doit lâcher prise, en fait. Donc, c'est le moment, sans doute, un des moments les plus vertigineux, même si pour vrai, ils le sont tous là, dans la fabrication d'un film. Ça prend en moyenne 3 et 5 ans chez nous, faire un film jusqu'au moment de sa sortie, c'est sûr. Puis on le porte, donc, notamment pour Chien Blanc, je le porte depuis vraiment plus longtemps que ça. C'est hyper précieux, rencontrer le public. Comme n'importe quelle forme d'art, je veux dire, on ne sait pas quelle empreinte on laisse, on ne sait pas comment l'œuvre se dépose chez les gens. On ne le saura jamais si on ne rencontre pas le public. Donc, d'aller, et tu sais, puis qu'il aime ou qu'il n'aime pas, hein, non, peu importe, dans le sens où la façon dont ça se dépose chez les gens, après, c'est la petite récolte qu'on peut faire, c'est dans les salles, c'est les discussions, les questions. Puis moi, pour l'avoir vécu à l'inverse, là, le contre-champ, donc étant moi-même une amatrice de cinéma, rencontrer les cinéastes, c'est souvent des moments marquants, en fait. C'est vraiment avoir le privilège, je sais pas, d'aller de l'autre côté du film, dans sa fabrication, mais aussi dans qu'est-ce qu'habitait le désir de ce cinéaste-là ou de cette cinéaste-là. Donc, c'est précieux, des deux côtés, je pense.
Oui, c'est plusieurs choses. Il y a le film qu'on découvre et il y a les intentions. Et finalement, des fois, les choses se croisent, des fois, les choses nous étonnent en tant que spectateurs.
Et puis, les anecdotes aussi. Hein, souvent, c'est comme... on peut même pas les imaginer tellement, des fois, elles dépassent la fiction. Là. Ça peut être assez épique, fabriquer un film.
Justement, dans quelques instants, on va revenir sur votre parcours, Anaïs, et sur votre film Chien Blanc, qui sortira en France en mai et en avant-première aujourd'hui au Cinéville de Laval. Mais avant ça, je propose une pause musicale, et pas avec n'importe quel titre. on écoute You and Whose Army de Radiohead, un titre particulièrement impactant dans le film Incendie de Denis Villeneuve. Et c'est toi, Fabrice, qui nous l'a proposé. Merci, c'est un très beau titre.
Come on, you think you'll drive me crazy. Come on, come on, you and his army, you and your cronies, come on, come on, Holy Roman Empire, come on if you think, come on if you think, you can take us all. Take us on. You and his army. You and your crown.
Précisément l'émission spéciale en direct et en public du Cinéville de Laval pour l'inauguration des reflets du cinéma canadien.
Nous sommes de retour après cette pause musicale, Anaïs et Wilfried, toujours à nos côtés. Et j'ai envie maintenant de me tourner tout particulièrement vers vous, Anaïs Barbeau-Lavalette, invitée d'honneur de cette 27e édition des Reflets du cinéma. Vous êtes réalisatrice de documentaires et de fiction pour le cinéma et la télévision, autrice romancière, mais aussi créatrice de documentaires scéniques. Aujourd'hui, tout particulièrement, on va parler de votre dernier film « Chien blanc » que vous présentez en avant-première ici aujourd'hui au Cinéville. La projection a même déjà commencé. « Chien blanc », c'est l'adaptation du roman autobiographique de Romain Gary publié en 1970, vous nous le disiez tout à l'heure. L'histoire qui nous est racontée se passe en 1968 au moment des émeutes raciales à la suite de l'assassinat de Martin Luther King. Les personnages que l'on suit sont Romain Gary, interprété par Denis Menochet, et Jean Seberg, pardon, interprété par Casey Hall, sa femme, mais aussi actrice et féministe, ainsi que Case, un dresseur afro-américain. Comment est-ce que vous nous raconteriez l'histoire de Chien blanc, Anaïs, en quelques mots?
Ben, en fait, le résumé, je l'ai un peu fait tout à l'heure, donc c'est vraiment... j'y retourne, mais brièvement, il y a plein d'autres choses à dire sur le film. Romain Gary, donc, est à ce moment-là consul de France aux États-Unis, installé là-bas avec Jean Seabrook, qui déjà, elle est très, très impliquée dans les mouvements civiques des Américains, afro-descendants particulièrement. Et puis, donc, on est juste au lendemain de la mort de Martin Luther King. Il y a un chien berger allemand qui erre autour de leur maison. Puis, eux, étant des amoureux des bêtes, décident de le faire rentrer, de l'apprivoiser, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte assez rapidement que le chien a été dressé pour attaquer les personnes noires. C'était d'usage à l'époque. Tragiquement, c'est pas complètement terminé aujourd'hui. Trump avait tweeté Bring the Dogs quand il y avait le mouvement Black Lives Matter dans les rues dernièrement. Donc, il y a quand même une espèce de tragique récurrence de ces chiens blancs, donc, ont réellement existé. Et donc, le couple s'emploie de façon différente à s'engager dans la lutte. Donc, c'est aussi la notion d'engagement, comment on peut prendre part à une lutte qui, a priori, ne nous appartient pas. Est-ce qu'on a le droit? Si oui, de quelle façon? Jean a sa vision de la chose, Romain a la sienne. Puis au milieu de tout ça, ben, il y a le chien et Keys, le dresseur noir, qui lui a aussi évidemment sa vision de la chose.
Pour le casting, Denis Ménochet, c'était un choix qui vous est... Enfin, c'était évident, vous avez plusieurs idées d'acteurs ou...
Ben, en fait, ça s'est passé lors d'un échange entre lui et moi où il m'a dit plein de choses, on s'est dit plein de choses, mais il m'a surtout d'abord nommé qu'il était extrêmement intimidé par l'idée d'interpréter un grand personnage intellectuel comme Romain Gary, qui se sentirait un peu imposteur. Puis je lui ai dit, tu sais que Romain Gary, toute sa vie, il s'est senti imposteur dans tout. Donc, je pense que si tu perds pas ce sentiment-là, déjà, t'as un bon pied dedans. Puis on sait, Denis Ménochet est un acteur franchement extraordinaire. Il peut tout faire. De façon extrêmement pointilleuse, il a travaillé beaucoup, il a été très, très, très généreux. Il s'est attelé à l'immense personnage qui est Romain Gary. Selon moi, avec brio, en le magnifiant pas, en lui donnant beaucoup, en lui rendant toute sa part de fragilité. Tu sais, c'est facile de se mettre un peu à genoux ou de faire révérence à ces grands personnages mythiques. Je trouve qu'il a réussi à ne pas aller là, en fait, à vraiment l'incarner dans tout ce qu'il pouvait avoir, de très imposant, là, l'homme de lettres, puis charismatique, puis un pied dans la politique, mais aussi avec toutes ces magnifiques failles, puis ses fragilités. Donc, il a réussi à porter les deux, en fait.
Et puis la relation qu'il a avec Jean Seberg, c'est touchant dans le film. Ouais.
Ouais, mais merci, je suis contente. Moi aussi, je trouve ça touchant. Tant mieux quand ça se rend. Ouais.
Et vous avez tourné aux États-Unis ou c'était au Canada? Parce que...
Alors,
ou c'est même pas du tout.
C'est tourné en temps de COVID, donc on devait tourner aux États-Unis. Et on s'entend, il faut faire un film d'époque, 1968, recréer les États-Unis, c'est difficile de toute façon, mais des États-Unis d'époque encore plus. Puis on n'a pas pu aller tourner aux États-Unis à cause de la COVID, donc on a tourné à Vancouver, qui est au Canada. On a trouvé, ça a été la magie, quand la magie du cinéma opère, on a trouvé une maison qui ressemblait vraiment à la maison, la vraie maison qu'avaient habité Jean et Romain à Los Angeles à cette époque-là. On est tombé dessus. En plus, elle était à louer, donc inhabitée à ce moment-là. Donc, toute l'équipe de direction artistique s'est installée pendant 3 mois dans cette maison-là pour lui redonner l'époque et la touche garyesque et cyborgesque, si ça se dit. On va l'inventer. Mais donc, c'est ce gros travail de direction artistique à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'il fallait recréer aussi la végétation des États-Unis de cette époque. Donc, ils ont fait ça comme des chefs. Mais il y a plein de parties tournées à Montréal aussi. Le chenil.
Le quartier... Le quartier O'Vickies aussi, peut-être, je ne sais pas.
Le quartier O'Vickies, c'est à Vancouver. Ouais. Mais on a brodé entre Vancouver et Montréal, c'est ça, pour toute la production.
Donc c'est rigolo, à l'écran, c'est à quelques kilomètres chaque lieu. Et puis, dans la réalité, il y a plusieurs centaines de kilomètres entre le chenil et la maison de...
Voilà. Donc au final, c'est bien fait. Ouais. Tant mieux.
Et donc, dans Chien blanc, il y a la présence d'images d'archives. À quel moment vous avez pensé justement intégrer ces images d'archives par rapport à l'histoire que vous racontiez? À quel moment ça a eu une importance et ça a un impact par rapport à la partie fictionnelle?
En fait, les archives ont toujours été là. Moi, les archives, ça me bouleverse. À chaque fois que je vois des documents d'archives, je trouve que ça clenche tout ce toute la fiction. En fait, c'est peut-être parce que j'ai un amour profond pour le documentaire que je trouve, tu sais, il n'y a pas de hiérarchie pour moi, le documentaire, franchement.
La frontière est toujours poreuse.
La frontière est poreuse, c'est ça. Mmh. Puis là, le risque, c'était que les archives dépassent en termes de puissance, de récit, la fiction. Donc, il fallait vraiment valser en montage pour pas que ça arrive, pour pas que les archives fassent de l'ombre à la fiction, mais bien que ça se parle. Donc oui, il y a des archives, des fameux chiens blancs qui sont lâchés par les policiers sur des personnes noires dans les manifs. Dès le début, il y a des archives très, très, très dures, mais qui campent. En fait, on a choisi de camper l'histoire de cette façon-là, de se rappeler, en fait, le contre-champ, parce que nos personnages principaux sont blancs. Hein. C'est deux blancs privilégiés, Dinsey Burke, Romain Gary. Le drame est vécu de leur point de vue, mais le drame réel de l'histoire, c'est pas eux qui le vivent. Donc, les archives servent aussi à ça, à donner des visages et à rappeler que la réalité, c'est ceux qui ont vraiment souffert, on s'entend, même si moi, comme blanche, je m'attache à deux personnes blanches. Les vraies victimes de cette histoire-là, elles sont présentes dans les archives de façon permanente. Puis, à la toute fin, je le dis parce que c'est pas nécessairement un punch, mais cette histoire-là se poursuit. Tragiquement, la question du racisme est loin d'être réglée. Puis il y a des archives donc récentes, donc autour de ce qui est arrivé à George Floyd, qu'on a intégré au film en fait sur le tard.
Oui.
Votre caméra donc suit les personnages de près, elle capte toutes ces émotions qui se bousculent chez vos personnages. Avant d'être un film politique, on est surtout sur un film très humain. On cherche à saisir toute cette complexité humaine entre les valeurs et les émotions qui traversent les personnages. J'ai l'impression que ce cadrage très rapproché, c'est aussi ça, c'est... avant d'être politique ou en parallèle d'être politique, on va chercher l'humain, en fait, et tout ce qui unit ou sépare ces personnages.
J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut aborder des grandes questions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ça touche, puis pour que ça touche, il faut qu'on s'attache à des trajectoires humaines. Puis donc oui, c'est reçu par Jean, c'est reçu par Romain, et c'est aussi surtout quelque part reçu par Diego Gary, qui est l'enfant qui a à ce moment-là 7-8 ans, qui vit tout ça à travers ses yeux sans prendre nécessairement parti, mais c'est lui qui va être la suite, c'est lui qui va écrire la suite de l'histoire. Donc il voit ses parents se déchirer, il voit son pays se déchirer aussi. Comment lui, il va construire par-dessus cette histoire-là? Moi, je trouve que ça pose toujours une certaine lumière puis un certain espoir quand on place un enfant dans un cadre, puis dans un récit, puis dans un film. C'est comme si on se dit « oui, mais il y aura une suite ». Donc, lui portera la suite.
C'est quand même elle qui subit les violences anonymes, en fait, les violences qui viennent de nulle part.
Jean, comme militante, oui, subit...
Il y a plusieurs moments où dans le film, c'est montré... ça va du journaliste qui rentre dans le jardin jusqu'à des violences encore plus fortes.
Ouais.
Et je crois que Romain Gary, d'ailleurs, a reproché aussi des campagnes de calomnie sur Jean Sibert.
Qui aurait mené à sa mort. Oui, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est tout tiré de faits réels. C'est-à-dire que à quel point elle s'engage, comment elle le fait, jusqu'où elle se brûle quelque part, jusqu'où elle se compromet. Jean, elle a pris quand même beaucoup de... Elle était très, très engagée, très, très militante. Elle a pris beaucoup de risques. Puis au final, est-ce qu'elle a fait les bons choix? Est-ce qu'elle s'est engagée de la bonne façon? T'sais? C'est aussi ça que le film questionne.
Oui. Parce que son fils lui dit à un moment qu'il préférait quand elle faisait des films...
Oui, ouais. C'est plus facile à aimer quelqu'un qui fait des films que quelqu'un qui va se battre dans la rue puis se fait aussi reprocher des deux côtés. Hein.
C'est ça qu'elle dit.
Elle prend part auprès des femmes afrodescendantes à la lutte, mais quelque part, ces femmes-là lui disent à un certain moment aussi, mais c'est notre lutte, tu nous voles la lumière, les caméras viennent te regarder, toi, te battre, mais c'est pas ta lutte. Tout ça, c'est des questions super intéressantes, je trouve.
Et cette question justement de que vous aviez évoquée tout à l'heure et que vous ramenez maintenant, comment prendre part à un combat qui n'est pas le nôtre? C'était déjà une question qui était présente dans Inch'Allah, sorti en 2012. Vous posiez en quelque sorte la question de votre légitimité, même à vous, de raconter une histoire en plein cœur de la situation entre la Palestine et Israël. Le personnage de la sage-femme canadienne interprétée par Evelyne Brochu pouvait être... ça pouvait être vous ou nous, un personnage en fait en dehors de ces combats, mais qui se trouve ici et qui vit auprès de ces gens qui eux-mêmes vivent le conflit directement. Ça, c'est des questions qui vous traversent régulièrement au moment de la création.
Ça m'intéresse parce que moi, je suis absolument bouleversée par toutes les formes d'injustice. J'ai habité, voyagé en territoire palestinien, j'ai étudié à l'université en Palestine. J'ai appris la langue pour essayer de me rapprocher puis de faire ce que je peux. Mais on est qui pour dire « je peux aider, je veux aider ». Je veux dire, c'est très prétentieux au final, tu sais. Ultimement, c'est pour ça que je dis que mes films, c'est le meilleur outil, j'espère, qui servent à quelque chose, quelque part au moins à nommer ce qui peut pas nécessairement être nommé d'une certaine façon. Donc oui, c'est des questions qui m'intéressent. Jusqu'où une lutte qui nous appartient pas peut devenir la nôtre? C'est quoi la bonne façon de s'impliquer, de prendre la parole, de s'en tirer la couverte vers nous? Tu sais, je sais pas si vous dites ça ici. Donc c'est funambule, ces prises de position là, c'est délicat. Comme blanc privilégié, choyé par la vie, tu dis comment je me fais aujourd'hui, à notre époque, pour être insurgé de la bonne façon, puis pour vraiment faire avancer les causes sans juste attirer de la lumière sur moi. Tu sais, c'est ça, c'est extrêmement pertinent. C'est des questions à se reposer constamment. Le cinéma peut nous aider à le faire, je pense, mais Chien blanc, c'est complètement ça le sujet. C'est un film sur le privilège blanc, puis comment on fait pour se battre contre des injustices qui ne sont pas a priori les nôtres, mais qui, ultimement, comme humains, oui, elles nous rejoignent. On a un rôle à jouer, mais donc lequel?
On parlait du public tout à l'heure. Quel retour vous avez là sur ce film? Quel retour vous avez eu au Canada et peut-être quel retour vous avez eu en France? Est-ce qu'il y a des différences?
Ben, en fait, en France, c'est tout naissant. Grâce au festival ici, on va bien le voir, j'ai très hâte. Mais une chose dont je suis vraiment fière, en fait, c'est que Chien blanc a été construit pour la première fois de façon responsable, en fait. On a travaillé avec des équipes vraiment mélangées. Donc, les Afro-descendants étaient dans tous les secteurs du film, aux costumes, aux décors, aux accessoires. Évidemment, au scénario, j'avais des consultants extrêmement brillants qui n'étaient jamais là pour aplanir ou assagir le récit, mais simplement pour me montrer mes angles morts comme personne blanche. Qu'est-ce que je vois pas? Puis ça, pour vrai, ça n'a pas été facile parce que c'est déjà très vulnérabilisant. Faire un film, on doute tout le temps. Donc, ça m'a rajouté des couches de doute. Donc de vulnérabilité, mais c'était vraiment nécessaire. Au final, tous, on est vraiment fiers d'avoir comme fait ce film-là de cette façon-là, en dialogue, sans se protéger ni d'un côté ni de l'autre. Puis on a déjà on a fait des tables rondes au Québec sur comment on avait travaillé, comment ça nous fragilisait, autant eux, consultants afrodescendants, qui se faisaient pointer du doigt par leur propre milieu. « Hey, toi, tu participes au film d'une blanche sur le racisme. » Tu sais, je veux dire, c'était ça, là. On était dans ces zones-là très fragilisantes de part et d'autre, mais on a décidé de le faire pour que, artistiquement, en fait, on arrive dans une zone de dialogue plutôt que dans une zone de peur où personne n'avance, tu sais. Donc, ça me fait plaisir que ça se soit pu, en fait.
Vas-y.
le temps avance un petit peu, mais j'ai envie de revenir sur une phrase qui arrive au moment, vers la fin de ce film. « Créer est un risque, mais le plus beau et le plus grand des risques, c'est d'aimer ». C'est toujours laisser une ouverture à la fin d'un film. C'est quelque chose d'important aussi, un moment d'ouvrir quelque chose et que le film ne se referme pas sur lui-même.
Ben, en fait, la lumière, c'est important. C'est un film, on peut dire que c'est un film dur, mais je trouve que la vie est trop courte pour juste signer un film et le conclure avec quelque chose de fermé, ouais, comme tu dis. Puis je pense qu'ultimement, c'est vrai, tu sais, on peut parler de toutes ces questions-là, mais je veux dire, à partir du moment où tu prends le risque d'aimer, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des portes qui s'ouvrent, là. Puis c'est né d'une conversation avec Denis Ménochet, cette dernière phrase-là, qu'on avait envie de terminer entre Denis, Romain et moi sur quelque chose qui nous élève, en fait. Ouais.
Quelque chose de lumineux. Eh bien, dans cette émission spéciale Reflet du cinéma, se poursuit dans quelques instants et on continue de puiser dans les BO des films programmés, bien sûr. Et s'il y a bien un réalisateur qui puise dans la culture musicale populaire, dans ses films, c'est Xavier Dolan. C'est le film Mommy que vous pourrez voir ou revoir lors de ce festival. On écoute tout de suite Blue d'FL65.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died.
inside me.
Précisément l'émission spéciale en direct et en public du Cinéville de Laval pour l'inauguration des reflets du cinéma canadien.
Et donc nous sommes de retour dans l'émission spéciale des reflets du cinéma en direct et en public du Cinéville de Laval. Et donc si on regarde un petit peu cette programmation cette année pour les reflets du cinéma canadien, on peut remarquer des focus sur trois réalisateurs en particulier.
Dont le premier, c'est sans doute un des réalisateurs canadiens les plus connus, c'est David Cronenberg.
Oui, alors j'ai décidé de faire un petit focus sur David Cronenberg parce que comme ça, ça augmentait mon quota de cinéastes anglophones pour le festival. J'ai fait donc deux focus sur deux cinéastes anglophones. Guy Madin aussi, qui est un cinéaste très singulier, très unique en son genre, et y compris David Cronenberg, qui est quand même un grand cinéaste contemporain qu'on a tendance à attribuer à un cinéaste américain, ce qui n'est pas du tout, il est de Toronto. Voilà, c'est un vrai cinéaste canadien et la plupart de ses films sont coproduits avec le Canada. Donc j'ai choisi trois films que je trouve un peu pas atypiques. Je voulais un film fondateur, donc j'ai pris Chromosome 3, qui est un film d'horreur pur et dur, j'allais dire, mais qui est quand même un film qui pose les bases de son travail sur qu'est-ce que c'est que le corps, qu'est-ce que c'est que la métaphysique, parce qu'il y a aussi beaucoup de métaphysique dans le film. J'ai choisi aussi ce que j'appelle un de ses classiques, Faux-semblants.
Avec
Jeremy Irons. Et puis un film un peu atypique dans sa carrière, je trouve, qui est A Dangerous Method sur Freud et Jung, qui est un film où là, le malaise dont vous parliez là, pendant la pause musicale se joue ailleurs que dans les corps et que dans l'horrifique. Oui. On est sur un film épistolaire qui est... que je trouve, moi, très réussi. Il était plus clivant, celui-là. Il y a des gens qui... Les fans hardcore de Cronenberg ne l'aimaient pas trop. Et le troisième cinéaste sur lequel j'ai fait un focus, c'est un cinéaste québécois qui est relativement connu, en tout cas dans les festivals en France, qui s'appelle Denis Côté. Et moi, j'aime beaucoup son cinéma. Il fait un cinéma très étrange, très singulier aussi. Et puis un cinéma très poétique, avec plein de mélancolie. Donc moi, je suis amateur de ce cinéma-là.
Ok, il a laissé un message sur le site pour...
Il nous a envoyé un petit message très sympathiquement, et puis on passe ce petit message avant ses films.
D'accord.
Dans la programmation, il y a aussi une place au cinéma d'animation et au cinéma documentaire, qui a aussi une très très belle place. C'était important pour toi, Wilfried ?
Oui, c'est très important d'avoir du cinéma documentaire. Donc on a demandé à l'Office national du film du Canada de nous faire on leur a proposé une carte blanche, donc ils nous ont proposé deux films. Un film qui s'appelle La fin des terres, qui est un film un peu difficile. Je ne sais pas si tu l'as vu, Anaïs.
J'ai pas vu La fin des terres, non.
De Loïc Dars.
Ok.
Donc voilà. Et puis ils nous ont proposé un film un peu plus léger qui s'appelle pourtant sur un sujet grave, un film qui s'appelle Croque-mort, c'est beau la vie. Donc là, moi, je suis très content d'avoir ces deux films. Et ils nous ont aussi fait, très gentiment, une sélection de courts-métrages d'animation. Parce que les deux points forts, enfin les deux domaines de compétences de l'ONF, donc l'Office national du film, c'est le documentaire et le cinéma d'animation. Donc on est très content qu'ils aient accepté, oui.
Et sinon, pour nos auditeurs qui ne se seraient pas encore plongés dans la programmation, qu'on invite à aller regarder. Si on vous demande que dans cette programmation nous mettre en avant un film qui parle d'amour, par exemple, est-ce qu'il y en a ?
Alors il y a un très beau film, c'est le coup de cœur des bénévoles d'Atmosphère. C'est un film qui s'appelle Parmi les vagues, qui est un film sur la fin de vie, mais c'est un film qui parle d'amour.
Et
je crois que Chien Blanc parle d'amour aussi un peu quand même.
Je suis d'accord, Chien Blanc parle d'amour. Oui.
Un film qui peut surprendre.
Les films de Guy Madin, La Chambre Interdite.
Un film qui nous effraie.
Chromosome 3.
Ah, forcément.
Un film qui nous apprend quelque chose, qui nous en apprend sur nous, ou qui nous fait avancer vraiment.
Tous les films de la sélection. En toute modestie.
Il y a une sélection pour les enfants aussi.
Donc
y a,
justement. Voilà,
j'allais dire un film pour la famille.
Il y a la sélection, c'est ce dont je parlais là, la sélection de courts-métrages ONF, donc Office National du Film du Canada. Donc c'est 8 courts-métrages à destination des 7-11 ans. Et on a aussi Jeux d'images. Alors là, c'est pour les tout-petits et en même temps, pour les grands, c'est très bien parce que c'est du cinéma de Norman McLaren, qui est un grand cinéaste d'animation canadien. Enfin, qui n'est pas canadien à la base, mais qui a choisi comme pays d'adoption le Canada. Et donc ça, c'est pour les 3-6 ans. Ça passe plusieurs fois dans la semaine, Jeux d'images. Et par contre, pour les parents, c'est superbe parce que c'est un cinéma expérimental autour du cinéma d'animation. C'est formidable. Ça peut parler à tout le monde.
C'est une très belle programmation, en tout cas, de mon point de vue. Bravo.
Est-ce Merci. Que vous auriez un coup de cœur, votre coup de cœur, en dehors de Chien Blanc? Est-ce qu'il y a un film, justement, vous avez dit les autres, je crois?
Il y en a plein, en fait, que j'ai adoré, qui sont dans la programmation, puis qu'il y en a que j'ai raté, puis que j'aurais envie de voir. Mais vite comme ça, c'est sûr que les films du Wapikon Immobile, c'est extraordinaire, parce que c'est aussi des tremplins pour des cinéastes, puis c'est vraiment des regards neufs. Et un peu dans la même veine, il y a Quespan, qui est un film de Myriam Véro, qui se passe dans une communauté autochtone. Myriam Véro a fait elle-même le Wapikon Immobile. C'est pour ça qu'après, elle a eu envie de faire un long métrage qui porte sur cette communauté-là. C'est super bien écrit, bien joué, bien réalisé. C'est vraiment un très, très beau film. Puis il y a aussi Pas de chicane dans ma cabane. Là, je dis ça parce que j'ai des enfants, mais c'est un super bon film pour les enfants. Puis encore là, qui n'est pas déplaisant du tout pour les adultes. Drôle, puis qui élève aussi. On parlait d'élévation, là. Mais ça vaut la peine d'amener les enfants.
Alors, je suis désolé, Anaïs, mais celui-là, il n'est passé qu'une fois et c'est trop tard.
C'est fini.
Voilà.
Bon, ben, on le rattrapera plus tard. Bref, il manque de rien dans cette programmation.
Bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission, Fabrice. Merci Anaïs Barbeau-Lavalette d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Wilfried également de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.
Mais ça passe vite.
Ça passe très vite, en votre compagnie.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
Et donc, on remercie aussi toute l'équipe du Cinéville.
Nous avons accueilli, oui.
Pour cet accueil. Valentin,
à la technique.
Que l'on n'entend pas, mais qui est là, Valentin à la technique, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à vous inviter à vous rendre en salle. Une cinquantaine de films vous sont proposés pendant 10 jours à Saint-Pierre-des-Nids, Évron, Laval, Goron, Ernée, Le Bourgneuf-la-Forêt, Mayenne, Montsûr, Château-Gontier et Renazé. Chacune de ces 11 salles porte le 7e art, donne vie au festival Le Font Vivre ici en Mayenne. À vous maintenant de réchauffer les fauteuils rouges devant le grand écran. La programmation complète du festival est disponible sur le site Atmosphère 53, sur le site des Reflets du Cinéma et sur le site de chacun des événements partenaires.
Il y a aussi des livrets qui sont disponibles dans les cinémas, donc profitez-en.
Et donc, on vous laisse sur un morceau que tu as choisi, Fabrice.
C'est French Kick qui joue Ne me remercie pas, mais c'est en anglais. Ça fait partie de la bande originale de Starbuck. Voilà.
Merci.
don't think.